Bonjour.
Le Far West, c'est une période qui vous fascine tout particulièrement?
Ah ben, forcément, l'Ouest sauvage, c'est fascinant. C'est la dernière frontière, dernier endroit où la main de l'homme moderne a posé le pied. Donc oui, il y a tout à la fois. La nature indomptée, les animaux sauvages, on trouve tout ce qu'il nous faut. La liberté, les mystères, les duels, les indiens, les shérifs, l'or.
Ah, il y a le choc des civilisations entre les colons et les Amérindiens. Il y a l'esprit de la conquête. Hein. Vous parliez de l'or. Il y a beaucoup d'histoires qui, c'est vrai finalement, sont plutôt fascinantes.
Oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Oui.
Mais je sais pas. Alors vous, qu'est-ce qui vous inspire? On entendait l'homme à l'harmonica, hein, les fameux westerns de Sergio Leone. Ce sont des univers qui vous animent depuis longtemps, que vous aimez bien suivre depuis longtemps.
Oui, bah oui, parce que on y trouve de tout justement, comme. Il y a toute cette liberté, les grandes. Il y a beaucoup de possibilités, des espaces immenses. Et puis, voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Rien que les noms des villes, ça évoque déjà. Ça donne déjà envie. Dire Tombstone, Deadwood, ça inspire déjà des histoires, je trouve.
Comment vous êtes devenu un fan inconditionnel? C'était quoi? C'était les films? C'était les bandes dessinées? C'était.
Alors, au départ, il y a. Le premier pas dans le Far West, je l'ai posé derrière ceux de Lucky Luke, en bande dessinée forcément, avec tous ces codes, le croque-mort, les panneaux à l'entrée des villes. Ensuite, j'aimerais vous dire que c'était avec Clint Eastwood, John Wayne, tout ça, mais si je veux être franc, la suite de la découverte du Far West, c'était plus avec le Dr. Quinn et Charles Ingalls.
Oh, j'adore.
Voilà.
Vous avez une fan.
Marty McFly aussi. Mais après, je me suis un peu rattrapé avec... dans la définition Far West, enfin la dernière frontière, c'est aussi l'Alaska. Et ça, c'était Jack London et les histoires qu'il a écrites là-dessus, quoi.
Donc des références plus prestigieuses que Dr. Quinn
et la famille Ingalls. Si on peut finir sur Jack London, Cro-Blanc, c'est plutôt que Charles Ingalls.
On va retenir celle-là de référence. Il y a des personnages historiques aussi qui sont particulièrement fascinants dans l'histoire du Far West. Parce que bon, il y a des noms qui sont rentrés dans l'histoire. Hein. Calamity Jane, oui. Billy the Kid et tellement d'autres.
Oui, alors moi, si une référence personnelle, alors il n'est pas historique, mais c'est le lieutenant John Dunbar, vous voyez?
C'est dans les tuniques bleues, ça, non?
Non, le lieutenant John Dunbar, c'est Shubmani Tutanka, c'est le Kevin Costner de Danser avec les loups.
Ah oui, bien sûr.
Ça aussi, c'est l'appel de la nature. Il a besoin de tout pour aller à la dernière frontière pendant qu'elle existe encore. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup fantasmé, parce que mon père était allé voir le film au cinéma, j'étais trop petit, puis il me l'a décrit. Et puis il me racontait l'histoire de cet homme qui lâche tout, qui va affronter les bisons, qui se marie à des indiens. Enfin, des indiens à une indienne. Et ouais, ça m'avait bien, bien inspiré.
Mais justement, c'est une période quand même qui est particulière. Il y a d'un côté, justement, comme on l'a dit, le choc des cultures, l'homme viril qui est sur son cheval, qui va parcourir des millions de kilomètres. Mais il y a quand même des choses beaucoup moins drôles. Il y a justement cette cohabitation avec les Amérindiens qui est difficile. Il y a beaucoup de meurtres, finalement. Il y a
violence,
ces duels. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous plaît.
C'est pas la violence du Far West qui m'attire particulièrement, mais... Tout le côté Far West, western fantasmé. Voilà, les grandes plaines, les duels, ce genre de choses. Après, le génocide, ça fait moins rêver, forcément.
Ce qui peut paraître étonnant avec le Far West, puis on parlera aussi de votre revue tout à l'heure, mais ce qui peut paraître étonnant, c'est que on évoque cette histoire, mais on l'évoque parfois comme dans des films, parfois, dans l'esprit, on ne sait plus trop si Billy the Kid a réellement existé ou si c'est un personnage imaginaire qu'on retrouve soit dans un film, soit dans un Lucky Luke ou ailleurs. Et pourtant, Calamity Jane, Billy the Kid, tous ces gens-là ont réellement existé, ils ont une vie et leur vie, en plus, est assez passionnante.
Oui, bah, y a toujours une partie de fantasme. Hein. On parlait de Calamity Jane... Et c'est pas l'image, enfin c'est pas la personne qu'on voit dans les Lucky Luke. En réalité, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées après. Elle est morte aveugle et alcoolique. Et Et le livre en peut référence sur sa biographie, c'est les lettres à sa fille. On sait maintenant que c'est plus ou moins du pipeau.
Alors,
traité et refait après.
Paul Parhart, c'est le titre de cette revue. On va découvrir dans le premier numéro Neville Lucky, un écrivain immigré de Bulgrovie qui a vécu à Fairbanks, en Alaska. On va faire la connaissance d'un autre auteur, Yann Sielville, qui a participé à La ruée vers l'or. Li Yu Kamiyu, un des écrivains les plus prolixes hein, du Far West. Lucien Vu, vous vous êtes amusé à inventer des récits, mais aussi et surtout à inventer des auteurs.
Exactement, oui. Alors c'était aussi un peu une démarche pour faire comme dans les revues pulp du début du XXe siècle aux États-Unis où il y a beaucoup d'auteurs qui, soit ils n'assumaient pas, soit ils ne voulaient pas que ça se sache et ils utilisaient des pseudonymes, certains auteurs qui sont devenus très célèbres ensuite. Et donc voilà, on a utilisé des pseudonymes et on a créé des auteurs.
Les vrais auteurs, c'est qui?
Alors les vrais auteurs, c'est en fait on a traduit officiellement, on a traduit des récits inédits d'auteurs... du Far West.
Alors, ces récits, ça va nous raconter quoi? On est vraiment dans l'ambiance Far West, Western, dont on parlait tout à l'heure, avec toutes les références qu'on peut tous avoir, chacun à son niveau.
Oui, alors on a quatre récits, on a essayé de faire un peu de tout. Dans l'histoire de l'éclair blanc de l'Oregon, on va suivre un pistolero très rapide qui gagne sa vie en faisant des duels. Les trois autres histoires se passent en Alaska. On a l'histoire d'un pêcheur qui essaye de venger son père, qui a été entraîné par le fond, par le roi des crabes rouges. On a une histoire d'un couple de chercheurs d'or qui survit dans sa petite cahute. Et la dernière histoire, c'est le cannibale maudit, une histoire de malédiction indienne en Alaska aussi.
Justement, écrire ces revues, écrire ces histoires, ça implique quoi? Ça implique de se documenter sur les lieux, sur l'époque, d'écrire dans un style particulier?
Alors c'est aussi justement l'exercice quand on écrit sous pseudonyme. On est trois auteurs et il y a quatre nouvelles, donc forcément, il y a certains auteurs qu'on écrit plusieurs. Et après, il y a un peu l'exercice de style selon l'auteur dont on écrit, dont on utilise la plume, on écrit d'une manière un peu différente. Yann Sielville, il est assez poète comme ça. Il écrit plus des fables que des choses violentes.
Une revue éditée artisanalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Alors c'est dans le sens que c'est pas fait de manière industrielle, c'est que on la fabrique nous-mêmes en fait, ça.
Alors 100 exemplaires pour ce premier numéro, un numéro qui est illustré également.
Alors il y a au moins une illustration par nouvelle, des petites illustrations qui reprennent des moments forts. Pour l'instant elles sont faites par moi, mais si on est ouvert à collaborer avec des gens s'ils ont envie de dessiner, de...
Plutôt des Charlingales ou plutôt des...
Alors plutôt des... il faudrait s'adapter au style des nouvelles
des Byron qui sont
très différentes.
Alors, ce premier numéro, il est sorti à 100 exemplaires. Ça sera toujours le cas ou alors, la possibilité, si le succès est au rendez-vous, si les lecteurs sont fans, une volonté d'augmenter le tirage, d'en faire une revue plus largement distribuée?
D'un côté, j'aurais envie de dire oui, j'aimerais créer des milliers d'exemplaires, mais pour rester justement artisanal, puis garder ce côté un peu bon marché, ce qui était l'essence des revues pulp, on va garder ça, on va en faire une centaine. Et puis, il y aura aussi un côté, ma foi, si vous les voulez, il faut vous abonner.
On mettra les détails tout à l'heure sur la page de Format 3 pour ceux qui veulent s'abonner.
Volontiers.
Jean-Michel.
Le Far West, c'est toujours, alors j'allais pas dire d'actualité, mais c'est très suivi. Enfin, Neuchâtel est à l'ouest de la Suisse, mais à part ça, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent un peu le Far West en Suisse? Est-ce que vous êtes certain, sûr d'avoir une véritable population qui va suivre avec passion?
Parce qu'il y a pas mal de gens à l'ouest, hein, quand même.
Alors ça, il y en a partout. Hein.
Alors, on sait que c'est pas forcément ce qui est le plus populaire, sinon on aurait fait une revue d'histoire policière, je pense, du polar. Mais non, c'est un truc qui est évocateur, que tout le monde connaît, nous ça nous plaît de partir là-dedans. C'est pas exclu qu'on fasse certains numéros avec des récits d'horreur ou de fantasy, quoi que ce soit. Mais le créneau de base, parce que c'est original, puis parce que ça nous plaît, ce sera le Far West. Après, c'est aussi... si on marche sur sa propre voie, on risque peu de rencontrer d'autres personnes.
On espère qu'il y aura quand même pas mal de gens qui rencontreront le chemin de Paul Verhaert, cette revue qui vient de, dans le premier numéro, vient de sortir. Lucien Vu, merci beaucoup d'être venu partager quelques duels avec nous ce matin.
Merci à vous.